L'artiste Tom of Finland en a fait des icônes de beauté et de sexualité. Je parle de ces hommes hyper masculinisés, adeptes du cuir. L'œuvre de Tom of Finland est reconnue mondialement et fait l'objet d'expositions dans de grands musées du monde, dont tout récemment ça a eu lieu au Musée des beaux-arts de Montréal. De l'extérieur de la communauté cuir, on décrit souvent le cuir comme étant un fétiche, mais pour plusieurs, c'est plutôt un mode de vie, voire une passion, surtout chez les hommes gays. Mais c'est aussi présent dans les autres communautés, donc de LGBTQIA+. Pour en parler, je reçois un vrai de vrai passionné qui tient une page Facebook, une chaîne YouTube dédiée au cuir. Alain Lacasse, bienvenue à l'émission.
Bonsoir, M. Chabot.
Chabot.
Excusez-moi.
Oui, alors, Alain, juste qu'on le demande toujours aux gens, on utilise le pronom et les accords masculins avec toi?
Oui, c'est bien il.
Là. Oui, il, okay. C'est bon.
Mélange-moi pas trop.
Alors, depuis quand es-tu un adepte du cuir?
Moi, j'ai commencé à triper dans le cuir, j'avais à peu près 17-18 ans, et puis j'ai jamais lâché depuis ce temps-là.
Ah ouais.
J'ai eu ma première moto, j'avais 19 ans, et puis comme que je dansais dans un club de danseurs et puis que c'était très payant, alors j'ai pu me...
Un club de danseurs?
Oh non, je travaillais dans un club de danseurs quand j'avais 20 ans, oui.
OK.
Et puis c'est comme ça que j'ai commencé avec le cuir.
Mais c'est quoi qui t'a fait découvrir le cuir? Pourquoi ça t'a
J'adore ça, c'est une seconde peau pour moi, et puis je trouve que c'est très masculin, puis je trouve que c'est très à la mode, et puis, c'est toujours de mode, d'ailleurs. Et puis, je trouve que ça fait... Je trippe sur ça.
On va élargir ça.
Oui.
D'où vient le goût du cuir dans les communautés queer comme la nôtre, là?
Ben, OK. Il faut savoir que le cuir était porté par les hommes de la caverne il y a un million d'années, d'accord? Quand ils tuaient un mammouth, esprit, ils se faisaient du linge avec la peau du mammouth. Alors, ça a une très, très vieille histoire, le chat. Mais on va arriver à nos années. C'est que les Grecs et les Romains utilisaient le cuir pour habiller leurs soldats et officiers vers 3500 ans avant Jésus-Christ, aller environ jusqu'en 330 à l'époque de Constantin II. Et puis, ça commençait vraiment là, le port du cuir, ça commençait avec les Grecs puis les Romains. Vers le 17e siècle, ça devient un mode de vie. Les manteaux, les tabliers, les pantalons, les chemises de cuir sont vendus couramment sur les marchés de l'époque du 17e siècle. Après ça, on arrive vers le 1800, les Premières Nations américaines, c'est-à-dire les Premières Nations qui habitaient les États-Unis, eux, ils ont inventé ce qu'on appelle les chaps. Les chaps, c'est une forme de demi-pantalon où ce que les fessiers, si on veut, et ce que le devant est à l'air. Ces chaps-là avaient été inventés par les Indiens pour se protéger contre les morsures de serpents, qui étaient très, très beaucoup à l'époque.
Mais ils n'avaient pas peur de se faire mordre aux fesses?
Alors, je ne sais pas, ça avait l'air que c'était surtout pour protéger les jambes. D'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi que les cowboys en ont fait un de leurs emblèmes de masculinité puis d'habillement, c'est à cause de ça.
Okay.
Les cowboys, dans les années 1880, aller jusqu'à 1900, ils portaient ça parce que ça les protégeait contre les morsures de serpents à sonnette et puis tout ça. Et puis, ça les protégeait aussi quand ils tombaient à terre de leur cheval. Après ça, on arrive vers 1900. On a commencé à créer des super belles garde-robes de cuir pour hommes, surtout à Londres et à New York. Mm. Il était très, très beau de voir des gens tout habillés en cuir, mais avec veston, cravate et tout, vers les années 1900. Après ça, en 1928, les frères Scott invente le blouson de cuir Perfecto pour les motards. C'est exactement ça, le Perfecto. C'est exactement ça. C'est pas un Perfecto, c'est une imitation. Là,
juste pour le... Oui, c'est le manteau qu'on voit régulièrement. Même il y a des gants en moto absolument pour ce
genre. Oui, c'est ça. Ça, c'est le style que les frères Scott ont sorti en 1928. Et à partir de ce moment-là, les clubs de motards ont commencé à porter des chaps parce qu'ils s'apercevaient que ça les protégeait contre la poussière. Puis quand ils
se... Les petits cailloux, puis tout ça.
Cailloux, puis tous ces trucs-là. Les premiers... Ce qui nous emmène à les premiers clubs gays dits de cuir, qu'on appelle. Bon,
ouais.
Ça a commencé des années 68-69 après les meurtres de Stonewall à New York en 1969 contre la répression gay. Mm-hmm. Ça a commencé là vraiment, les clubs de cuir. Les gars, qu'est-ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils s'achetaient des garages, et puis parce que ces gars-là avaient des motos, et puis ils transformaient ça en club de cuir, c'est tout. C'est comme ça a commencé avec les frères Scott. Mm-hmm. En 1928, ils ont ouvert le premier bar gay en moto, en cuir.
Wow.
Et puis, à l'époque, le Harley-Davidson commençait à construire ses motos, ses quelques premières motos et tout ça. Après ça, on arrive en 1970. Les premiers bars officiels de clubs de cuir ouvrent à Montréal. Le premier, il s'appelait le Buds. Okay? Mm. Ça, c'est sur la rue Stanley, dans les années 75 à peu près, 1975, si je ne me trompe pas, d'accord? À côté du Hollywood, du Limelight, et ainsi que du Studio 1. C'était le quartier, c'était l'endroit gay de Montréal dans les années 75 puis 80, c'est là qu'on se tenait. Mmh. Et puis, en 1979, malheureusement, puis à San Francisco aussi, ça s'est énormément développé, surtout à San Francisco, d'accord? Il y avait beaucoup, beaucoup de gars de cuir à San Francisco dans les années 75-80. Malheureusement, entre 1979 et 85, il y a eu ce qu'on appelle la grosse crise du sida, qui malheureusement a affecté plus de 60 % de la communauté de cuir au Québec. Autrement dit, qu'il y a eu 60 % de cuir qui sont morts durant la crise du sida dans les années 78, aller jusqu'à 80. Là, ça mourait là, comme à tous les jours, il y en avait une centaine qui mouraient. Là. C'était là, il n'y avait pas de médicaments, il n'y avait pas de sérum, il n'y avait rien. Les gens, les médecins ne savaient pas trop quoi faire avec ça. Mais surtout, qu'est-ce qui m'a écœuré le plus, parce qu'à cette époque-là, j'avais 18-19 ans, c'est la stigmatisation qu'on a fait des gens de sidéens. On les a méprisés.
On va rester au cuir parce qu'on va manquer de temps.
D'accord. Après alors... ça,
je vais t'amener à... Pour beaucoup de personnes, on associe le cuir à une certaine sexualité. Est-ce que c'est vrai?
Oui,
je parle
non.
Du BDSM, là.
Oui, puis non. BDSM, là, on va mettre une chose au clair, d'accord? BDSM, ça, c'est des trucs qui ont été créés par les gars de cuir, d'accord? À une certaine époque, dans les années 70-75, OK? C'est Bondage Domination, ça, c'est ça. Ouais. Okay. C'est que... Aujourd'hui, en 2024, c'est plus la même forme de BDSM qu'on pratiquait il y a 20 ans, il y a 40 ans. Aujourd'hui, on c'est beaucoup plus sûr, beaucoup plus sécuritaire, et puis surtout, c'est moderne.
Et ça se fait avec le consentement.
Ça va avec le consentement de la personne. Et ouais. Puis, pour moi, comme moi, je fréquente de nombreux donjons, tels le Palace puis l'Orage, je peux vous dire qu'à cette heure, c'est très consensuel, et puis c'est plus comme avant.
Oui, parce que le temps presse. Est-ce que les gens qui s'habillent en cuir se promènent dans la rue en cuir? Comment on vit maintenant cette réalité-là, parce qu'on est en 2024?
Ça, malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, M. Chabot. Ouais. C'est que moi, j'ai fait une étude pendant une semaine. Je me suis promené dans le village entre 19h et 21h, justement pour garder pendant une semaine. Je suis allé dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, pour voir s'il y avait des gars de cuir qui se tenaient dans le village. Malheureusement, j'en ai pas trouvé. D'accord. Ouais. Les gars de cuir étaient voués quand que le stud ou l'aigle noir fait des spéciaux comme les 5 à 7 des Phoenix ou quand que le stud organise un spécial cuir. Là, tu vas les voir. Mais en dehors de ça, t'as pas grand chance de voir des gars de cuir dans le village par les temps qui courent.
Rapidement, ça coûte cher, s'habiller en cuir?
Ah, il faut calculer. Écoutez, pour avoir des pantalons, un veston, puis la casquette, puis les bottes, il faut calculer 1000 $
Ouf, c'est pas à la portée de tous. Là.
Non, c'est pas à la portée de tout le monde, en effet. Mais il faut vraiment que tu aimes ça. Et puis, moi, j'aime ça. Je m'habille en cuir pour aller au gym, je m'habille en cuir pour aller à la banque.
Pour venir en entrevue à la radio.
À la radio, puis ça. Et puis, d'ailleurs, vous regarderez mon vidéo. Là, j'ai fait une vidéo là-dessus. Je vais faire ça sur YouTube. Et puis, tout ça. Et puis, non, j'aime le cuir. Qu'est-ce que je te dis?
C'est une passion.
Ah, c'est vraiment une passion, monsieur, qui dépasse la raison parfois.
Ah, qui dépasse la raison du portefeuille. Mais on va devoir arrêter ça ici, aller à la casse. Aller à la casse, vous l'avez entendu, un vrai de vrai passionné du cuir. Puis c'est vrai qu'à cette émission ici, on parle de tout. Le cuir, c'est une communauté importante dans nos communautés.
Bien, je vous remercie de m'avoir reçu. Puis n'importe quel temps, vous voulez avoir des détails, n'importe quoi, une entrevue, ça va me faire plaisir de vous...
On peut le trouver sur YouTube et sur Facebook.
On le trouve sur YouTube ou sur Facebook, bien sûr. Puis de toute façon, vous avez mes coordonnées.
Merci beaucoup.